LBD. La base décide. La base définit.
Salut, vous écoutez LBD, le podcast de Sud Éducation. Pour commencer cette émission, nous exprimons ici notre solidarité avec le camarade Eric qui a commencé une grève de la faim le 30 janvier pour la régularisation de Madama, un jeune Malien arrivé en France il y a 2 ans. On espère que lorsque ce podcast sera diffusé, Madama aura été régularisée. Cette semaine, on va parler du 8 mars, la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes. Un podcast sera diffusé chaque jour jusqu'au 8 mars. Alors le 8 mars, d'où ça vient ? On oublie souvent l'origine socialiste, révolutionnaire, internationaliste et féministe de cette journée. En 1910, à la conférence des femmes socialistes de Copenhague, Clara Zetkin, une militante allemande, propose une motion soulignant la nécessité d'une journée internationale des femmes. Motion qui est alors votée à l'unanimité. Les objectifs de cette journée de lutte sont l'obtention du droit de vote, du droit de travailler librement et le combat contre les violences sexistes au travail. Plus généralement, les revendications portent sur l'égalité économique, juridique et politique des femmes. Un deuxième temps fort se déroule en 1917 en Russie. Face à la guerre et à la famine, le 23 février, qui correspond au 8 mars de notre calendrier grégorien, des ouvrières en grève manifestent pour leurs droits, pour des conditions de travail et des conditions de vie décentes. Les ouvriers des industries leur emboîtent le pas, les grèves se généralisent. C'est la révolution. C'est ainsi que le 8 mars est choisi par les partis communistes comme journée de mobilisation des femmes et que cette date est restée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit une camarade AESH pour nous parler de son métier exercé à 93% par des femmes, mais soumis toujours à de nombreux stéréotypes.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ce sujet de LBD, le podcast de Sud Éducation consacré au 8 mars, on va parler des AESH. Je serai avec Roumana, AESH dans le 95 et syndiquée à Sud Éducation. Bonjour Roumana.
Bonjour Maud, je suis Roumana, donc je suis AESH depuis 9 ans, au collège Chantraine à Sarcelles et j'accompagne un dispositif Ulysse.
Alors, voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'AESH qui sont syndiqués à Sud Éducation, qui écrivent du matériel. Il y a un journal qui va sortir bientôt, que je vous engage à aller voir sur le site de Sud Éducation. On a beaucoup d'AESH qui participent à des collectifs de lutte en ce moment contre les PIAL, c'est-à-dire la mutualisation des moyens d'AESH, et pour obtenir un vrai statut. Mais nous, à l'occasion de cette émission, nous voulions parler des AESH sous un angle un peu particulier, c'est celui de la féminisation de la profession. Avant de parler de ça, est-ce que Roumana, tu pourrais nous décrire le travail d'une AESH pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce métier ?
Oui, alors l'AESH est chargée alors, d'accompagner les enfants en situation de handicap qui ont une notification NDPH, donc qui ont besoin d'avoir un accompagnant au quotidien durant leur scolarité. Donc moi, ma tâche principale, c'est de les aider à écrire, enfin à la lecture, à l'écriture, à la reformulation, à trouver des solutions pour contourner un problème, pour leur expliquer en plus simple, en simplifié. Je les accompagne aussi dans la vie du quotidien, c'est-à-dire dans les aides, par exemple, pour les accompagner dans une salle, quand ils sont perdus dans les couloirs.
Vous avez une formation pour ça ?
Alors, je n'ai pas eu réellement de formation. Je suis rentrée, moi, après un congé parental. On m'a proposé juste 60 heures de formation, donc vraiment pas de la pratique, que de la théorie. Donc, en gros, quand j'étais sur le terrain, j'étais déjà sur le terrain quand la formation, on me l'avait proposée, mais j'avais déjà pris mes marques. Donc, on est un peu obligé, on est seul face à la situation et on s'adapte. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. La formation arrive après et souvent, pour ma part, elle ne m'a pas servi à grand-chose.
Je reviens sur ce que tu as dit, que tu es arrivée au métier d'AESH après un congé parental. Il y a un chiffre qui est sorti, que nous on diffuse beaucoup à Sud Éducation, c'est le chiffre de 9 AESH sur 10 sont des femmes.
Alors, dans mon entourage, c'est vrai que beaucoup d'AESH sont des femmes. Hein, on va dire 90% des AESH sont des femmes.
C'est intéressant parce que dans ce que tu as présenté dans les missions que tu exerces au quotidien, on retrouve des missions, des tâches qui ne sont pas celles de mère ou de femme, mais vraiment de spécialistes du handicap. Toi, est-ce que tu as l'impression d'être reconnue dans l'éducation nationale comme une spécialiste du handicap ?
Alors malheureusement, j'ai pas l'impression d'être reconnue. Déjà au sein de mon établissement, il a fallu un peu de temps pour qu'on sache qui je suis. Les enseignants ne savaient pas trop pour quelles raisons j'étais là. Avec le temps, ils ont quand même appris et moi, j'ai su aussi m'imposer au sein de l'établissement et à revendiquer que j'étais nécessaire au sein du dispositif pour accompagner ces enfants.
Qu'est-ce qui manquerait, à ton avis, pour que vous soyez vraiment reconnus les AESH pour vos compétences professionnelles comme des personnels nécessaires à l'inclusion scolaire ?
Alors jusqu'à aujourd'hui, ce que je reproche énormément, c'est le salaire. Nous ne sommes pas du tout reconnus. Moi, en étant AESH collective, j'étais à 33 heures, je suis passée à 30 heures, mais ça reste quand même un salaire très très bas. Je touche 900 et des brouettes par mois net. Ça reste encore très très bas. On est vraiment en dessous du seuil. Pour le coup, on a besoin d'être reconnu. Notre métier a sincèrement besoin d'être reconnu. Au niveau des formations, pareil, on a besoin de plus de formations. Beaucoup d'AESH qui arrivent sur le terrain là récemment, elles ne savent pas ou ils ne savent pas comment procéder. Ils exécutent ce qu'on leur demande de faire. Et en règle générale aussi, les enseignants demandent de faire tout et n'importe quoi malheureusement. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas.
Pour le coup, à Sud Éducation, les camarades AESH ont construit une revendication, celle d'éducateur ou d'éducatrice scolaire spécialisée, avec un vrai statut intégré dans la fonction publique, parce qu'aujourd'hui, les AESH, même en CDI, sont sous contrat, donc ne sont pas titulaires d'un poste dans la fonction publique. Cette revendication, elle changerait donc beaucoup de choses dans le quotidien, parce que ça veut dire un temps plein, un salaire à temps plein. Pour nous, c'est quelque chose d'intéressant. Ça fait partie des revendications qui sont portées par les collègues quand ils parlent de reconnaissance. Mais on a pu voir des mobilisations l'année dernière, cette année qui continue, des mobilisations contre la mutualisation des moyens d'accompagnement et contre les PIAL. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot des raisons pour lesquelles les AESH sont opposés à la mise en place des PIAL ?
Alors les AESH et moi-même, d'ailleurs, je suis très très remontée contre la création de ces PIAL qui sont d'abord, notre PIAL à nous est arrivé cette année, dans le 95. Donc la mutualisation, c'est hyper compliqué, sachant que ils prennent les AESH pour combler des trous, c'est-à-dire que quand il y a un établissement, il manque une ou un AESH dans un établissement, ils vont prendre l'AESH d'établissement A pour le mettre dans l'établissement B, sachant que celui qui était l'enfant qui est sur l'établissement A, c'est hyper compliqué de l'aider aussi puisqu'il perd des heures. Les AESH sont censés se déplacer d'un établissement à un autre sans forcément avoir les moyens.
Oui, donc on comprend bien avec ce que tu nous expliques pourquoi les AESH sont autant mobilisés contre la mise en place des PIAL. C'est vraiment une grosse dégradation de leurs conditions de travail pour le coup. Ça veut quand même dire un temps de travail incomplet avec un salaire incomplet, d'où une grande précarité. Alors vous portez une revendication, je crois, sur le temps de travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Oumana ?
Oui, alors nous, les AESH, on porte la revendication sur le temps de travail qui est actuellement un temps plein, un temps incomplet qui est à 30 heures, mais qui a un salaire très très bas, 900 euros et quelque chose, et à 24 heures qui est de 780 euros. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que le temps complet soit de 24 heures avec un salaire adéquat, un vrai salaire. Voilà.
Et donc, les 24 heures devant élèves, ça vous permettrait d'être sur un temps plein avec l'idée que toutes les tâches dont tu parlais, je pense au début, quand tu parlais de la formation, vous faites beaucoup d'auto-formation, j'imagine, vu le manque de formation fournie par l'institution, tout le travail de concertation, il serait compris dans votre temps de travail, un peu comme chez les enseignants et les enseignantes qui ont des maxima hebdomadaires de 24 heures devant élèves ou 18 heures pour les certifier, mais où il y a une prise en compte de toutes ces tâches-là, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on aimerait, ça serait donc 24 heures face élève avec les concertations, les ESS, etc. Ce qui nous ferait un temps complet, un peu comme les enseignants. Donc, on aimerait bien être considéré quand même mieux que ce qu'on est aujourd'hui.
C'est vrai que gagner un vrai statut avec un salaire à complet, un temps plein pour les AESH, ça permettrait quand même à énormément de femmes, 100 000 femmes, de sortir de la précarité et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Je pense que c'est beaucoup plus clair grâce à tout ce que tu nous as dit, Oumana, aujourd'hui. Je t'en remercie. Et puis, on espère que les luttes des AESH seront victorieuses, qu'elles continueront à se mobiliser, parce que là, il faut gagner, hein, c'est sûr.
C'était le premier podcast LBD de la semaine consacré au 8 mars. On se retrouve demain pour évoquer les violences sexistes et sexuelles au travail. Et d'ici là...
Thank you.